Et bienvenue au Transversal, une émission consacrée aux artistes de la musique, du théâtre, du cirque, de la danse. 40 minutes d'émission enregistrée et diffusée en deux volets, les mardis et mercredis matins à 10h35, en direct sur 90.5 et en différé sur le site des Transversales www.les-transversales.fr. Cette semaine, il sera question de musique classique, de musique sacrée. De la passion selon Saint-Jean, il sera question d'opéra, mais aussi de théâtre, le festival de Pâques ou encore, lorsque l'excellence se veut solidaire, c'est possible avec la musique et la passion en partage. Il sera question donc de la 11e édition du festival de Pâques, c'est à partir du vendredi 22 mars et jusqu'au 7 avril, et je cite. Ancré au cœur de la ville d'Aix-en-Provence, mais rayonnant à un niveau international, et je poursuis, ce festival au départ, c'est celui de l'irrationnel. On n'imaginait pas, en le créant, qu'on serait encore là 10 ans plus tard. Ce sont vos mots, Dominique Bluzet, nous allons y revenir. Mon invité cette semaine est un homme de passion, mais aussi un amoureux de théâtre, d'opéra, de musique. Bonjour Dominique
Bonjour.
Bluzet et bienvenue au
Merci.
Transversal. Ravi de vous accueillir dans cette émission. Et tout d'abord, quelques mots sur vous. Vous avez été acteur, metteur en scène, producteur. Vous êtes aujourd'hui, après on en finira avec les présentations, mais vous êtes aujourd'hui à la tête des théâtres, Théâtre du Jeu de Paume, le Grand Théâtre de Provence, à Aix-en-Provence, mais aussi à Marseille, du Théâtre du Gymnase, plus récemment des Bernardines. Vous êtes aussi le directeur exécutif du Festival de Pâques que vous créez en 2013, avec votre complice Renaud Capuçon, violoniste et chef d'orchestre à la carrière internationale. Renaud Capuçon en est le directeur artistique. Et la deuxième édition du Festival de Pâques, ce sera à partir du 22 mars jusqu'au 7 avril 2024. Et tout de suite, on écoute le teaser du Festival de Pâques. Alors donc, le concerto, c'est un extrait donc du concerto pour violon de Mendelssohn, joué par l'Orchestre Philharmonique de Radio France, Julia Fischer au violon et la direction, alors j'arrive jamais à dire son nom, peut-être vous ferez mieux que moi, Myung-Chung.
Non mais c'est pas mal, c'est pas mal. En fait, vous savez, pour que ça soit, pourquoi nous on se trompe pas, on dit juste Chung.
Et ben voilà.
Voilà, on triche.
Je vais le dire avant.
Alors vous savez, cet homme, il a quelque chose de très particulier. Il a une maison en Provence et il taille ses baguettes de chef d'orchestre dans ses oliviers.
C'est merveilleux.
Et donc les baguettes de chef d'orchestre, normalement c'est blanc, je veux dire. Bah, lui, c'est un morceau d'olivier et il dirige avec un morceau d'olivier qui vient de ses oliviers.
Ben voilà.
Voilà. Comme ça, il emmène la Provence un peu partout dans le monde.
Mr. Chung.
Voilà. Donc.
Alors Dominique Bluzet, sur cette nouvelle édition du Festival de Pâques, qu'avez-vous envie de nous dire ? Si vous avez envie de nous dire quelque chose.
D'abord, il faut que vous y veniez.
Oui.
C'est une histoire assez merveilleuse. Il y avait pour moi trois objectifs qui étaient importants. Le premier objectif était philosophico-artistique. Jacques Attali, il y a 30 ans, a écrit un livre qui m'a beaucoup marqué, qui s'appelait 1492. Dans ce livre, il raconte comment cette année a été une année de basculement pour le monde entier. Et c'est l'année où l'évêque de Barcelone, pour inaugurer sa cathédrale, demande à des saltimbanques de jouer la naissance de Jésus à Bethléem. Et c'est un vrai bouleversement. D'abord, c'est la première fois qu'on demande à des artistes, des comédiens, de jouer à l'intérieur, parce qu'avant, ils jouaient dans les foires, sur des tréteaux. Deuxièmement, on leur demande de jouer. Donc, il y a une interprétation. Pour moi, l'interprétation, c'est le début de la psychanalyse. C'est chercher à comprendre ce que l'histoire ne raconte pas, mais ce qu'on lui suggère. Et enfin, ce que ça va faire, c'est que à cette époque, dans la religion chrétienne, on ne pouvait pas s'adresser à Dieu directement. C'est un peu comme les musulmans aujourd'hui. On ne pouvait pas représenter Dieu et on était obligé de passer par le prêtre, qui était le passeur entre l'homme et le divin. Et là, tout d'un coup, le fait de faire ça va circuler dans toute l'Europe, va arriver en Italie, ça va donner la Renaissance, parce que tout d'un coup, des peintres peuvent décider de représenter Dieu, ce qui ne et donc de donner une interprétation au divin. Ça va remonter vers l'Allemagne, ça va donner Bach, Beethoven, Mozart. Ça va remonter en France, où Molière, dans Don Juan, défie Dieu. Ça va remonter aussi politiquement, puisqu'il ne faut pas oublier qu'à cette époque, les monarchies sont de droit divin et qu'on ne va pas hésiter en France à décapiter le roi, c'est-à-dire quelque part à décapiter Dieu. À partir de cet événement, ce qu'on dit, un battement d'aile d'un papillon, ça peut faire un ouragan, ce battement d'aile à Barcelone va bouleverser l'Europe d'un point de vue artistique, me semble-t-il. En tout cas, c'est mon interprétation. Et j'ai eu envie, au Festival de Pâques, qu'on réfléchisse à cette idée du rapport entre l'artiste et le sacré, entre le spectateur et le divin, entre le spectateur et l'artiste. Pâques, c'est pour les chrétiens, c'est la naissance et la résurrection. Et donc, réfléchir à nous, notre statut d'homme face à ça, quelle que soit notre religion, se poser la question de ce que nous sommes face au divin et comment l'artiste a transcendé cette question. Et pour moi, c'était une réflexion extrêmement importante que je vais pousser encore plus loin dans les années à venir, en essayant de faire dialoguer des gens de toute religion, des philosophes, etc. Pendant le Festival de Pâques, je vais avancer là-dessus. Et voilà, il y avait ça, c'était le premier opus. Le deuxième, c'était de commencer la saison plus tôt à Aix-en-Provence pour qu'il y ait une attractivité du territoire qui soit plus forte. Au lieu d'attendre le mois de juin pour que les gens viennent à Aix, là, ils viennent en avril. Et puis ensuite, c'était de faire d'Aix le Salzbourg français, en disant on a un grand festival d'opéra, on a un festival de Pâques. On est en France la seule ville qui soit équivalente de Salzbourg. Et moi, je pense aujourd'hui que Aix-en-Provence, en dehors de Paris, c'est probablement la plus grande ville en matière de musique classique. En tout cas, pour une ville de 150 000 habitants, elle est aujourd'hui une ville européenne à cause de ces deux grands festivals. Et pour moi, c'était important de lier cette notion de fierté d'appartenir à un territoire, de fierté d'appartenir à une communauté de citoyens, de se demander comment, à titre individuel, on se bat pour notre territoire. Et comme disait Kennedy, ne te demande pas ce que tu vas faire pour ne te demande pas ce que ton pays va faire pour toi, demande-toi ce que tu vas faire pour ton pays. Je crois que pour moi, voilà, c'était important de servir cette cause-là. Donc c'était les trois choses qui ont fait que on a créé ce festival de Pâques, avec ce rapport au sacré qu'on va retrouver cette année avec un certain nombre d'œuvres majeures de la musique sacrée, notamment la Passion, mais pas que. Tout un volet social et sociétal qui prend de plus en plus d'ampleur et qui est pour moi extrêmement important.
On va y revenir dans tous les cas, et vous avez largement anticipé sur les questions suivantes, mais je voudrais juste redire ici ce que vous avez... J'ai noté une de vos phrases, c'est avec les artistes que l'on confrontera l'idée de démocratie dont on a tant besoin aujourd'hui, et que l'on pourra faire société, voilà, tout simplement. Et ça me fait penser, en fait, il y a le Festival de Pâques, il y a ce que vous avez décidé de faire, et au printemps, et pas attendre, et parce qu'il y avait le festival lyrique. Bon. Et ça me paraissait... je me dis, mais au fond, c'est quelque chose de politique aussi.
Ah, c'est très politique.
Hein, on est d'accord. Moi, je crois que... Il y a la politique.
Je crois que mon rôle... Alors d'abord, j'ai beaucoup...
Pardon, j'anticipe un petit peu
non, sur non, ce mais que j'ai beaucoup réfléchi pendant le Covid. Qu'est-ce que ça veut dire aux gens d'aller au théâtre quand il n'y a plus de théâtre ? D'autant plus que ça arrivait au moment où on nous annonçait que le gymnase fermait parce qu'il fallait le reconstruire. Donc je me disais...
Il n'est pas encore réouvert. Hein.
Non, septembre 26. Et je me disais, on dit aux gens d'aller au théâtre, mais il n'y a plus de théâtre, finalement à quoi je sers ? Certes, il y a d'autres théâtres, mais il y avait cette question-là. Et j'ai beaucoup évolué sur cette question, là aussi, de mon rôle, qui est à la fois artistique, qui est à la fois entrepreneurial, qui est à la fois politique, qui est à la fois un rôle en direction aussi des publics les plus faibles. Comment je m'inscris dans la cité ? Et pour moi, c'était quelque chose d'extrêmement important d'évoluer aussi là-dessus. Le monde change beaucoup. On ne peut pas rester dans un monde où l'acteur culturel n'est là que pour finalement demander des subsides aux différentes collectivités. Je crois que la notion de représentation sur le plateau n'est pas la seule finalité du théâtre. Et donc, en 2020, j'avais été voir Martine Vassal en lui demandant de m'aider à monter un projet qui s'appelle Aller Vert, où on crée des petites pastilles et on va là où sont les gens, gratuitement. Avec Ariane Ascaride, on a été dans les églises faire des sermons de Pagnol. Avec Nicole Ferroni, on a été dans des cafés. Avec, on a été dans des EHPAD avec Marie Fauzel. On a été dans des centres sociaux. On a été faire une petite histoire de la danse dans les écoles.
Et le public a suivi, c'est ça. Vous avez eu beaucoup de succès, je crois.
Oui, on a touché près de 20 000 personnes en 2 ans. Et je crois que là, je voudrais faire un truc sur les terrains de pétanque qui va s'appeler J'ai les boules. Et donc, je suis à la recherche de la personnalité atypique avec qui je vais travailler. Je vais penser à Philippe Catherine, mais très compliqué de travailler avec lui. L'idée, c'est de continuer à être créatif, d'inventer des formes qui vont toucher les gens. Aller dans les EHPAD au mois d'août, c'était un pari. Là où les personnes âgées sont seules, parce que les enfants sont en vacances. Pour moi, c'était important. Et le rôle d'un acteur culturel, c'est de répondre. C'est pas simplement de proposer quelque chose à la société, c'est aussi d'être capable de répondre à ses besoins. Et pour moi, c'était quelque chose d'extrêmement important. Et dans tout ce que je bâtis, parce qu'aujourd'hui, il y a le Festival de Pâques, mais il y a cet ensemble des théâtres, c'est 480 feuilles de paye tous les mois, c'est 220 000 places vendues, c'est plus de 12 000 salles abonnées, c'est près de 8 000 artistes qu'on accueille chaque année dans les différentes formes, etc. etc.
Pardon, quand on parle des théâtres,
donc c'est les 4 théâtres.
Ah, vous parlez des... On parle des 4 théâtres, ouais. Parce que pour moi, les théâtres, je me suis dit non, ce sont juste les 2 théâtres d'Aix-en-Provence.
Moi, l'aventure...
Il s'agit des 4 théâtres.
L'aventure des théâtres,
avec
c'est...
Avec le conservatoire d'Arius Milhaud, d'ailleurs.
Mais le conservatoire, pas théâtre, c'est pas nous, on va y jouer. Mais nous, notre aventure, c'est... Donc 4 théâtres, le gymnase, les Bernardines, le jeu de paume et le grand théâtre, c'est unique en France, peut-être même en Europe. C'est aussi 2 festivals, le festival de Pâques et un festival qui s'appelle Nouveaux Horizons sur la création contemporaine en matière de musique. Mais c'est aussi ce projet Aller Vert. Et puis c'est...
qui se poursuit maintenant.
Qui se poursuit chaque année. Tous les ans, en gros, comme on joue beaucoup en extérieur, c'est plutôt entre mai et novembre. Parfois décembre, quand on joue dans des lieux, voilà. Mais on joue jamais dans des théâtres. Et on joue sur tout le territoire du département. On va dans les villages, etc. C'est aussi avec la région. Renaud Muselier m'a aidé à mettre sur pied toute une série de concerts dans les villages au moment du Festival de Pâques. Donc on a la chance d'avoir à la fois des mécènes extraordinaires comme le CIC, comme une femme qui s'appelle Aline Fauriel d'Estezay, des entreprises qui ponctuellement sont venues comme Ortec à Aix ou La Bio, enfin des tas de gens, 400 donateurs privés. Et puis en même temps des collectivités comme la région et l'État pour le Festival de Pâques et l'ensemble des collectivités, les villes, l'État, le département, la métropole, la région aussi.
Tout le monde s'y met, en fait.
Oui, je crois que j'ai réussi à convaincre tout le monde de dire c'est un projet militant, citoyen.
C'est fédérateur en même temps.
Et puis je crois que c'est une réussite, c'est-à-dire que je croise des gens qui, dans cette aventure, trouvent une raison de, à la fois d'espérer, de se dire c'est formidable d'avoir ça sur notre territoire, une raison finalement de fierté, de dire c'est une chance d'avoir
aussi,
ça
absolument.
Sur notre territoire. Et on n'est pas simplement dans une relation consumériste qui est de dire je vais voir un spectacle. Ça raconte autre chose parce que nous avons notre fondation à côté, la SAMI, et qu'on est présent. Par exemple, j'ai lancé il y a 7 ou 8 ans un projet qui s'appelle Echo, qui veut dire le son en grec ancien. Et on a équipé des maisons de soins palliatifs, des centres de gériatrie, des hôpitaux, de salles de musique où on diffuse des concerts en streaming. L'autre jour, j'étais à la maison à Gardanne, qui est une maison de soins palliatifs. Dans toutes les chambres, dans l'écran de télévision interne, on retransmettait un concert de Yusunna, qui est un grand jazzman, jazzwoman, me dire qu'on arrive à être présent et à toucher des gens dans tous les endroits. Ça fait partie d'une mission. Il y a quelque chose, je ne veux pas dire de messianique parce que ça serait très présomptueux, mais il y a quelque chose comme un devoir moral. Il y a quelque chose comme un devoir moral que nous avons d'offrir l'art au plus grand nombre et pas simplement de se contenter de gérer le public dans des salles et de ne pas considérer qu'une programmation, un programme, c'est la seule finalité d'une aventure culturelle.
Alors, pendant que vous parlez, bien entendu, il me vient à l'idée de vous poser cette question. Est-ce que ça a toujours été pour vous ou bien est-ce qu'il y a eu un changement depuis que vous êtes à la tête des théâtres? Vous dites que la période Covid vous a permis aussi de réfléchir beaucoup. Mais est-ce que cette prise de conscience, vous l'aviez déjà il y a quelque temps, ou bien ça a évolué pour vous et vous avez envisagé des choses nouvelles parce que la société change, parce que vous êtes à l'écoute de la société, de ce qui se passe, et parce que vous avez envie de faire bouger les
Malheureusement,
lignes.
Il y a une autre chose, parce que j'ai vieilli. Et quand on vieillit, on mûrit.
C'est plutôt une bonne chose quand même.
Oui, je pense qu'on est meilleur. Pour tous ceux qui ont peur de vieillir, je pense qu'on est meilleur à 60 ans qu'on ne l'était à 40 et qu'on ne l'était à 20.
Ça dépend pourquoi. Mais oui, là-dessus.
Disons qu'on devient de façon inversement proportionnelle plus un Rocco Siffredi de la pensée que de l'exercice physique. Mais la pensée grandit et ouais. C'est que je crois
Elle
quelque chose d'important. Et moi je suis arrivé à Marseille, je connaissais pas cette ville, on était en 1990, je venais diriger un théâtre. C'est Marseille qui m'a fait beaucoup changer, c'est la relation très particulière de cette ville à la citoyenneté. D'ailleurs j'avais proposé à Robert Vigouroux de débaptiser la Porte d'Aix et de la rebaptiser Porte d'Aix EX en hommage aux ex-migrants qui sont devenus dans cette ville des citoyens français.
Déjà à l'époque.
Le rapport, oui, c'était en 1993. Le rapport à la citoyenneté de cette ville m'a beaucoup fait changer, beaucoup fait évoluer. Je venais de Paris où le rapport à la citoyenneté n'existe pas parce que c'est la capitale. Mais à Marseille, oui, c'est très fort.
Alors, je vais vous arrêter parce que le temps court et que c'est une émission de 20 minutes. Donc, on va quand même laisser un peu de place pour la musique, pour terminer notre premier volet. Et puis, après cela, je vous dirai, on va se voir demain.
D'accord.
Et on poursuivra notre conversation. Merci beaucoup, Dominique Bluzet.
Merci à vous et à demain.